Bonjour, bienvenue au Cercle de lecture de Confluence. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un livre de Christian Garcin, La Piste Mongole. Quelques mots à propos de cette association Confluence. C'est une association qui, tout au long de l'année, propose des manifestations littéraires, artistiques, à Montauban et dans les environs de Montauban. Chaque année, le point culminant, c'est l'être d'automne, dans la deuxième quinzaine de novembre. Et donc, c'est l'auteur Christian Garcin qui est invité cette année. C'est la raison pour laquelle, au Cercle de lecture, nous avons choisi de lire un livre donc, de cet auteur, La Piste Mongole. Autour de la table, donc, sont présents...
Jeannette, bonjour.
Bernard, bonjour.
Et moi, Jean. Donc, quelques mots à propos de Christian Garcin. Christian Garcin, c'est un auteur donc, qui est né en 59 à Marseille, qui a écrit déjà de très nombreux livres. Et on peut remarquer, si on lit la liste de ses livres, qu'il y a une extraordinaire variété dans les sujets qu'il traite. Et notamment... quand même avec une préférence pour l'ailleurs, les pays un peu lointains. Mais il ne veut pas quand même être considéré comme un écrivain voyageur. Alors je ne sais pas, peut-être Jeannette ou Bernard, diriez-vous autre chose pour préciser cet auteur
J'avais envie de dire quelque chose sur ce titre de la piste mongole, là. Que je crois, enfin, après avoir lu le livre que j'ai interprété de deux manières, au sens propre, le héros de l'histoire se rend en Mongolie à la recherche d'un de ses amis qui a disparu. Donc la piste mongole, c'est ça, c'est cette recherche.
Oui.
Mais.
Pardon.
Je finis. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose dans cette piste mongole. Il y a ce goût de l'ailleurs dont tu parlais pour Christian Garcin. Mais c'est pas que l'ailleurs géographique. C'est l'ailleurs aussi de la connaissance. Il y a une connaissance qui peut être rationnelle. Et puis, il y a toutes les autres connaissances qui ne le sont pas. Et on sent quand même de livre en livre, là, enfin, bon, j'en ai lu quatre, dans lesquels on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire cet intérêt pour l'irrationnel. Et là, dans la piste mongole, c'est le chamanisme.
Oui, alors pour préciser les choses, on peut donc lire la présentation du livre sur la quatrième de couverture, dans la collection Point. Donc, en quête de son ami Eugenio, journaliste disparu sur les traces d'un géographe sibérien, Rosario rencontre des personnages peu ordinaires, une apprentie chamane, une sibérienne capable de voir l'invisible, un chinois qui maîtrise ses rêves, de Oulan-Bator à Pékin, du lac Baïkal aux montagnes mongoles, les mondes se chevauchent, les histoires se répondent et l'imagination n'a pas de limite. Donc... Déjà, tout un programme.
C'est un des thèmes majeurs de la piste mongole, c'est le rêve, les expériences oniriques. Chamaniques, je ne sais pas, parce qu'on peut... Lors de notre réunion du cercle de lecture, on a débattu sur le fait qu'il s'agissait bien de chamanisme. Le mot est employé. On s'est plutôt mis d'accord sur le fait que c'était des expériences oniriques. Très poussées, puisque non seulement ça permet de voyager... dans l'espace et dans le temps, mais ça permet aussi d'interférer dans le rêve des autres. Donc c'est une histoire qui se prolonge, en quelque sorte, entre les héros, entre les personnages, d'une autre façon, qui se prolonge dans leur rêve, où les personnages interviennent des fois à leur insu, et des fois de façon maîtrisée. Tu l'as dit, Jeannette, Wang Lin, c'est le chinois qui maîtrise ses rêves. Et puis parfois, ses rêves lui échappent, et des personnages viennent interférer dans ses propres histoires oniriques.
Bon. Et ce chinois, ce Chen Wanglin, qui, pour simplifier l'affaire, est quelquefois appelé Chen Face de Rat ou Chen.
Il porte au moins quatre noms.
Il est écrivain.
Et il est écrivain.
Alors, il ne faudrait pas décourager les futurs lecteurs, mais c'est vrai que le début de la lecture de ce livre est un peu déconcertant parce qu'on ne sait jamais tout à fait précisément qui parle, qui a la parole.
Qui dit je.
Qui dit je.
Ouais.
Et donc, ça peut être de nature à décourager, mais notre but n'est pas de décourager justement les lecteurs, et au contraire de les encourager à s'engager sur ces pistes et à essayer de ne pas se perdre dans le labyrinthe.
Alors, tu l'as dit, Jean et Jeannette, tu l'as souligné, c'est un auteur à l'œuvre foisonnante. Il a énormément écrit. Alors, ce thème de l'imaginaire est un des thèmes qu'on retrouve dans bien de ses livres. Et ceux qui connaissent et qui ont lu beaucoup des œuvres de Christian Garcin disent que la piste mongole est un peu la plaque tournante entre les personnages, la plaque tournante entre les thèmes abordés. Et c'est des personnages qu'on retrouve dans d'autres romans de Christian Garcin, peut-être poussés là à leur paroxysme, enfin au moins dans la façon de voyager dans les rêves.
Alors, d'après ce que j'ai compris, le titre de qu'il va donner donc à, quand il va passer, quand il va venir à Montauban, c'est les passerelles du temps.
Les passerelles du temps.
Et donc, ah, ouais. Le mot passerelle, c'est un mot qui est, il me semble, très très intéressant par rapport à cet auteur, parce qu'il établit continuellement, justement, des passerelles entre rêve, réalité, entre les mondes, des mondes différents aussi, ouais. Parce qu'il y a le monde de la Mongolie, de la Chine, mais toujours, il y a aussi des références à d'autres mondes, d'autres cultures, et notamment la culture européenne. Puisqu'il est fait allusion très souvent, enfin très souvent, de temps en temps, à des films ou à des musiques qui sont tout à fait européens et contemporains.
Par le biais d'ailleurs de la sœur de Chen Benglin, le héros de l'histoire, qui est une fan de littérature anglaise, de romans, comment dire, de romans d'amour, entre guillemets, anglais, mais quand même de bons auteurs, puisqu'elle elle adore Jane Austen.
Et Henry James.
Avec donc le tour d'écrou.
Le tour d'écrou, oui.
Le livre commence par une citation du cinéaste Ingmar Bergman, qui me semble être très éclairante aussi par rapport au projet de l'auteur. Il dit ceci: « Tout existe côte à côte et s'interpénètre, comme d'immenses motifs qui changent sans cesse. De la même façon, il doit y avoir un nombre illimité de réalités. Pas seulement la réalité que perçoivent nos sens, mais un tumulte de réalités s'enroulant et se déroulant, dedans et dehors. Seule la peur et le bon sens établissent des obstacles. Il n'y a pas de limite. » Donc c'est comme un encouragement au lecteur. Il ne doit pas avoir peur. Et il ne doit pas avoir peur non plus d'abandonner un peu le raisonnement trop logique.
Alors, d'autant qu'il nous repêche quand même Christian Garcin, parce que pile au milieu du livre, là je crois que c'est la page 183 et le livre en fait 360 à peu près, il y a deux intermèdes, et ces deux intermèdes récapitulent un peu l'histoire d'une part, et puis également des notices biographiques sur les héros de l'histoire. Alors je dois dire que j'ai un peu peiné dans les 180 premières pages, enfin un peu, mais qu'à partir de ces fameux intermèdes, honnêtement, je me suis régalée. Je dis bien régalée.
Oui,
et c'est vrai que j'incite tout le monde à lire ce livre.
C'est un livre qui se mérite. C'est vrai que les premières pages ne sont pas forcément d'un abord très facile, mais après, on y trouve une récompense d'avoir franchi cette étape.
Voilà.
Alors, vous l'avez dit l'un et l'autre, Jeannette, tu l'as souligné. Moi, j'ai lu son dernier roman, « Les oiseaux morts de l'Amérique », où on retrouve effectivement
les passerelles du temps.
Les passerelles du temps. Alors là, c'est dans le temps, effectivement, puisque un personnage va régulièrement et de façon maîtrisée visiter son passé, visiter son enfance. Mais l'écriture est complètement différente. Les héros n'ont rien à voir avec ceux de la piste mongole. Et si j'ai eu un peu de mal, moi aussi, à rentrer dans le livre La piste mongole, je suis rentré très facilement dans Les oiseaux morts de l'Amérique. Et c'est un roman qui m'a beaucoup, beaucoup plu.
Hein. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman-là, oui, aussi. Et alors, on se disait que, étant donné que c'est le dernier, qu'il a une intrigue simplifiée, quand même, peut-être, on se dit que peut-être Christian Garcin va vers un peu une épure de son écriture.
Il n'a pas encore 60 ans, donc tous les espoirs lui sont ouverts.
J'ai envie de vous lire deux petits passages, là, justement, sur son écriture. C'est Chen Wenglin qui parle, mais on peut supposer que l'auteur n'est pas étranger. J'ai toujours plusieurs récits en cours. 4 en ce moment. une fiction mongole qui met en scène une apprentie chamane et un jeune garçon, une autre dans laquelle un type part en ermite dans le désert de l'Utah, un récit animalier dont le narrateur est un aigle, dont le prénom, enfin ça c'est moi qui fais une petite coupure, est extraordinaire. Je crois qu'il l'appelle l'héliolodali parce que ça semble porté par le vent. Je reviens au texte. Et une histoire plus réaliste, inspirée de celle de Zhu Wenguang. Alors ce Zhu Wenguang, qui s'appelle aussi Zhuo Luo, c'est en fait Zoro, le Zoro chinois, qui redresse les torts, mais les torts des maris qui battent leurs épouses, qui leur ont été vendues.
On peut peut-être faire une première pause musicale.
Voilà, alors on est allé vous chercher profond en Mongolie le chant diphonique. Et alors c'est un chant très très étonnant, parce que le chanteur chante avec deux voix en quelque sorte. Alors il y a une voix de fond de gorge qui est comme une sorte de bourdon. Et sur cette voix de fond de gorge, avec les lèvres, avec la langue, avec les dents, il articule d'autres sons. Et le bourdon est vraiment d'une voix de basse extraordinaire.
Voilà, c'est une voix de basse profonde.
On vous dépayse.
Voilà un exemple donc qui permet d'être dépaysé.
J'avais envie de dire, ne vous y trompez pas, c'est une seule personne qui chante.
Oui. Alors, dans ce livre, finalement, il y a toute une réflexion aussi sur les rapports entre le rêve et la réalité. Et finalement, à plusieurs reprises, le rêve devient pratiquement plus important que le réel. Je cite par exemple des phrases qu'on peut lire dans le livre. La réalité n'est pas ce qui est, mais ce que l'on croit qui est. Ou encore, la réalité n'est pas plus réelle que les rêves, et même les rêves seraient la seule vraie réalité. Tout est fait donc pour que le lecteur essaie de ne pas raisonner, comme je disais, avec une logique trop stricte.
Trop cartésienne,
voilà.
Il n'est pas seulement question de rêve. Il y a aussi, je pense, à une scène qui se passe au bord du lac Baïkal, entre Wang Lin, dont on a parlé à plusieurs reprises, et une très jeune russe, enfin, ou ukrainienne, qui est au premier degré, qui se passe dans la réalité, qui est très belle, mais d'un seul coup, on bascule à nouveau dans le rêve, dans le surnaturel. On passe de l'un à l'autre.
Il y a tout le temps, oui, ce mouvement de passage. Et très souvent, le lecteur se laisse prendre Parce qu'au moment où il croit qu'il est dans le réel, on lui signale que non, en fait, c'était le rêve de... Et quelquefois, c'est le rêve d'un rêve. Mais par ailleurs, on est quelquefois aussi dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de road movie, à travers donc les plaines de l'Asie centrale. Et je cite par exemple, là j'ai un passage qui est, à ce moment, qui est aussi, il me semble, avec une dimension humoristique. Voilà de quoi il s'agit. Le 4x4 est russe et pue le gazole. À l'intérieur, il y a Sambu, Vanglin et moi, plus le chauffeur nommé Dogbar. Sambu parle mongol, russe, allemand et français. Vanglin parle chinois et anglais. Moi, français, russe et anglais. Et Dogbar, uniquement mongol. Je ne peux donc m'adresser directement à Dogbar ni Vanglin, ni Vanglin à Sambu, ni Dogbar à Vanglin. Si Vanglin veut parler à Sambu, il doit passer par moi, tout comme Sambu doit passer par moi s'il veut s'entretenir avec Vanglin. Si d'aventure j'ai un renseignement à demander à Dogbar, je dois passer par Sambu et vice-versa. Si maintenant Vanglin veut poser une question à Dogbar, nous intervenons tous les quatre. Il doit me la poser d'abord et je dois ensuite la poser à Sambu qui transmettra à Dogbar. Idem, bien entendu, mais en sens inverse, si Dogbar souhaite répondre à la question que vient de lui poser Vanglin. Et comme si l'auteur sentait que le lecteur est un peu désarçonné, il y a à la page suivante un schéma avec des flèches qui indique comment se fait la communication et avec un commentaire « Aucune confidence n'est possible entre Vanglin et Dogbar ».
Oui, en plus, puisqu'on sait que la traduction... c'est souvent une trahison. Je vous laisse imaginer comment circule l'info entre les quatre Lascars.
Voilà, et donc les quatre personnages, comme ça, sont lancés sur les routes de, donc, de ces plaines.
Dans les steppes.
Donc c'était pour donner un exemple de aussi cette dimension du voyage et du voyage avec des péripéties étonnantes. Bien que, encore une fois, Christian Garcin... ne veuille pas être, porter l'étiquette écrivain voyageur.
Oui. Alors, il y a autre chose, moi, qui m'intéresse, c'est que ces rêves font de la divination. Les rêves de Vanglin, il s'avère que grâce à eux, parce qu'il rêve d'une femme chamane, grâce à elle, qu'il n'a encore jamais vu, sauf dans ses rêves, où il l'a vraiment très bien vu, puisque de très près, oui, il y a une scène un peu érotico-mongole au bord du, au bord du Baïkal. Bon, mais grâce à elle, on va savoir ce que sont devenus les personnages. Parce qu'au départ, donc, le personnage, le héros de l'histoire, là, Rosario Tronberg, qui est le héros, soit dit entre parenthèses, de Selon Vincent, un autre livre de Christian Garcin, part à la recherche donc, de son ami Eugenio et n'a que trois indices, le nom d'un Russe, le nom d'un Mongol et le nom d'Oulan-Bator. Et c'est uniquement avec ces trois petits indices qu'il se lance à la recherche de son ami. Et on va, au fur et à mesure, grâce aux rêves, grâce aux road movie, comme tu dis, finir par retrouver tous les personnages, morts ou vivants, ça, on vous laisse le découvrir.
Oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a une difficulté, quelquefois, c'est que les personnages portent plusieurs noms. Et donc,
des surnoms.
Ou des surnoms.
Oui. En plus, ils sont c'est chinois, mongol, etc. C'est pas forcément facile à retenir du premier coup. Voilà.
Même à prononcer. Mais...
Alors, là, on parlait de la femme chamane. Je sais qu'au cercle de lecture, un des participants qui s'y connaît disait que la façon dont il parlait du chamanisme. Christian Garcin ne lui paraissait pas conforme tout à fait à ce qu'était le chamanisme. Nous n'avons pas les moyens.
Il y a un petit débat là-dessus maintenant. Hein? Il y a tellement de formes de chamanisme.
Voilà, on n'a pas les moyens de.
On n'a pas les moyens de vérifier.
Parce que ce n'est pas non plus. C'est pas un livre donc d'écrivain voyageur, mais ce n'est pas non plus un documentaire sur le chamanisme.
Non. Pas du tout.
Le chamanisme, ça vient comme ça, comme un élément du récit, mais ce n'est pas le sujet principal.
Non, c'est peut-être un des moyens pour multiplier les histoires.
Exactement.
Parce qu'en fait, il nous raconte plusieurs histoires emboîtées les unes dans les autres.
C'est un moyen.
Il y a l'histoire au premier degré, le road movie,
voilà,
tel que tu l'as caractérisé, Jean. Et puis, il y a les rêves des uns et des autres, les rêves qui s'interpénètrent les uns dans les autres. Et puis, il y a les histoires de Wang Lin.
Jeannette,
tu l'as signalé.
Oui,
il y a quatre histoires en même temps qu'il écrit spontanément. Il écrit tout le temps, d'ailleurs. Même dans le 4x4 secoué dans tous les sens, il écrit.
Il réussit à écrire, oui.
Il écrit et il rêve. Alors
et puis,
ça fait des prétextes à histoire.
Les vaticinations, quand même, de la jeune femme qui ne fait que manger, quand elle ne vaticine pas, la jeune chamane, et qui, pour vaticiner, a besoin, ou pour rêver, a besoin d'avoir un fond d'opéra chinois. Alors, on a eu le vice. les assistants disent que ce sont des miaulements épouvantables. Et donc, on a eu le vice de vous faire écouter un petit extrait, très bref. Mais enfin, on est vraiment peut-être tout à fait béotien en matière d'opéra chinois. D'un opéra chinois qui s'appelle Le Pavillon des Pivoines.
Il paraît que c'est l'opéra chinois le plus célèbre.
Oui, et qui a été joué à Paris, à la Villette, dans son intégrité, en 1999. Et il paraît qu'il était à cette époque-là censuré en Chine, parce que les héros de l'histoire, par amour, s'affranchissent des conventions et des oukases familiaux ou étatiques, enfin, j'en sais rien. Alors, un petit extrait du Pavillon des Pivoines. Alors c'est une vieille mongole qui caractérise cet opéra, enfin ce chant de miaulement. On lui laisse la responsabilité de son jugement, puisque quand même des milliards d'individus en Chine adorent cette musique.
Mais c'est vrai que pour des oreilles occidentales, c'est assez déconcertant.
C'est un peu difficile. Alors pour vous récompenser quand même, on va vous faire écouter un crooner. Le mot n'est pas trop fort, mongol. Il paraît qu'on ne peut pas aller en Mongolie sans entendre ce chanteur qui s'appelle Javklan. Enfin, ça s'écrit J-A-V-K-H-L-A-N.
Simplifié de son nom.
Peut-être, oui. Et qui chante un air qui s'appelle « Loin de ma mère ». Et il se trouve que je suis tombée sur la traduction. Je trouve ça particulièrement beau. L'aube apparaît dans le lointain brumeux. Je me souviens avec émotion de ma mère, espérant le retour de son fils, fixant l'horizon lointain jusqu'à ce que son espoir s'épuise. Dans le ciel, les nuages s'étirent au moment où je prie. Je pense à ma mère, faisant bouillir le thé sur le poêle, fixant l'horizon jusqu'à ce que ses yeux s'épuisent, etc. etc. En voilà un extrait. 후계 잃은 네가 뜻후계 어르고 부스대 치스틸라스익 실대대 알수도 수가 애지맨 아밍의 칼타 슈테네미니 빌레 Садгай тэнгэрте үүдэн замхарна Садбар хийнэ хэрхэн Эчмэн бутудно Аргдин цогонд цайга бүүдэч Аньсар
sera çizdi lasik şifede. Al sudu suna ecime, emin ferde şüphenimin bide. Al sudu suna ecime, emin ferde şüphenimin bide.
Voilà donc une musique qui est plus, disons, accessible pour les oreilles occidentales et qui montre aussi comment, enfin, qui illustre, on pourrait dire, la variété que l'on trouve dans le livre. C'est-à-dire qu'on est à la fois dépaysé. Et puis, par certains côtés, on retrouve aussi des aspects qui sont connus dans notre monde. Les deux mondes, d'une certaine façon, s'interpénètrent. Et la modernité, curieusement, au milieu de ces steppes, tout d'un coup apparaît. C'est-à-dire qu'on est très très éloigné, on est dans un coin complètement perdu, et puis on peut se brancher sur Internet, c'est possible. Donc, je pense que Christian Garcin est très sensible à ces échanges. Et il le dit à un moment donné, il ne veut pas faire du pittoresque, folklorique. Ce n'est pas son but. Par ailleurs, on a remarqué que dans le livre, il y a une très grande variété dans les procédés d'écriture. Et là, peut-être, Jeannette, tu peux donner un exemple.
C'est-à-dire que il y a d'autant plus de variété dans les procédés d'écriture que tantôt c'est Chen Wenglin qui écrit carrément des nouvelles. Donc ces nouvelles s'insèrent telles que dans le livre et elles sont en quelque sorte une inclusion dans le livre, n'ont pas de rapport avec apparent.
Elles sont sur des sujets complètement différents.
Ouais, et n'ont pas de rapport apparent avec l'histoire.
Ouais. Et là, il y a quand même une graphie particulière, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont en italique.
Voilà, ou d'autres avec un caractère différent.
Voilà, police de caractère différent.
Police de caractère. Mais j'ai trouvé un passage que je trouve intéressant, qui peut-être parle de Christian Garcin lui-même, mais il le met dans la bouche de Chen Wenglin, qui est en train de parler avec la jeune fille russe, Irina, à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, Christian. Alors voici ce qu'ils se disent. « C'est formidable d'avoir tant de projets, » fit Irina rêveusement. « Moi aussi, je crois que j'aimerais écrire. » Wenglin leur resservit du thé à tous deux. « Rien ne t'en empêche, » dit-il, « il faut se lancer, voilà tout. » Même si on ne croit pas avoir grand-chose à raconter, le plus souvent, c'est le fait même d'écrire qui génère l'histoire. C'est comme un processus qui s'auto-alimente. « Je crois que j'ai de l'imagination, » dit Irina. « C'est toujours ça, mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas ?»« Non, ça ne suffit pas, » répondit Wenglin. « Le produit de l'imagination ne donne pas forcément de la littérature. Et du reste, il existe de la bonne littérature très peu imaginative. » Mais enfin, ce n'est pas non plus antinomique. Tout coexiste, je crois. c'est comme les différentes réalités dont tu parlais, tu te souviens, tout coexiste. Je crois que pour retenir ça.
Et donc, à côté de passages complètement oniriques ou bien complètement fantaisistes, on pourrait dire, puisqu'on fait parler, on fait même parler un aigle, on fait parler des animaux, donne des renseignements à l'intérieur des rêves. Et à côté de ça, il y a des passages qui sont des passages, on peut dire, très réalistes. Par exemple, une table de camping au milieu d'un plateau d'herbe rasé et autour, le quatuor. Deux Mongols, l'un petit et trapu, visage poupin et regard dur, l'autre un peu plus grand, mais à peine, fin comme un écureuil, petite moustache et cheveux en brosse. Un Chinois, grand échalas aux bras démesurés, tête de rongeur, et un Français chevelé, mal rasé, situé entre l'un et les autres. Bon, donc là, on a un exemple de, on pourrait dire, littérature réaliste. Et on est dans une sorte de roman d'aventure. Je pense que Christian Garcin, sans doute peut-être, enfin j'imagine que dans sa jeunesse, il a lu peut-être des romans de Jules Verne. Ce qui m'y fait penser, c'est qu'il est question d'Irkoutsk. Et Irkoutsk me fait penser à Michel Strogoff. Donc je pense qu'il a ce goût quand même de l'ailleurs, du dépaysement.
Ben, on sait qu'il y est allé en Mongolie. Enfin, il y a d'ailleurs des récits de voyage qu'il a fait avec quelques complices. Là, récemment, vient de sortir un livre qu'il a écrit avec Eric Faye, et avec lequel il a refait le périple d'Alexandra David-Neil pour rentrer dans le Tibet. Voilà, en ce moment même, il est en train de faire le tour de l'hémisphère nord.
Sur un porte-conteneur.
Sur un porte-conteneur, à pied, je crois, voiture.
Avec Tanguy Vielle.
Avec Tanguy Vielle.
Nous avons parlé ici la dernière fois.
Oui, dont on a... Voilà.
Donc, si on lit la liste de ces livres, on voit du Baïkal au Gobi, carnet japonais, au bord du lac Baïkal. Donc... effectivement, bon, mais il y a aussi Labyrinthe, il y a aussi Fée, Diable et Salamandre. Donc, il y a ces deux aspects. Hein. Il y a le réel et puis il y a tout ce qui transcende le réel.
Et on voulait vous parler un petit peu des autres romans.
Voilà, puisqu'on parle effectivement d'autres livres de Christian Garcin, ce qu'on peut dire, c'est que La Piste Mongole n'est peut-être pas le premier livre de Christian Garcin par lequel il faut aborder son œuvre. C'est plutôt un livre de synthèse qu'un livre d'initiation à l'œuvre de Christian Garcin. Il y a des romans, certainement d'un abord plus facile. Tu l'as cité aussi, Jeannette. Les Oiseaux Morts de l'Amérique, qui est son dernier roman, celui qui vient de paraître chez Actes Sud. C'est une histoire plus conventionnelle, disons, entre trois anciens vétérans américains. Et on sait que les vétérans américains sont abandonnés souvent par la société et se retrouvent dans une situation matérielle extrêmement précaire. Ils vivent dans un égout de Las Vegas. Et puis, petit à petit, on découvre leur histoire. L'un en Afghanistan, l'autre en Irak et le dernier au Vietnam. Des histoires terribles. Ce sont des personnages pudiques. Ils ne se livrent pas facilement et... leur histoire, on la découvre progressivement. Et puis, effectivement, l'un d'entre eux, le vétéran du Vietnam, maîtrise ses rêves, plus exactement, maîtrise ses incursions dans le passé.
Et dans l'avenir.
Et dans l'avenir, mais là, on voit surtout celle qu'il fait dans le passé. Et il visite régulièrement, avec une précision qui n'a rien à envier au présent, son enfance. Et plus exactement, quelques jours de sa prime enfance, en présence de sa mère et des amis d'enfance qu'il avait à l'époque. Et là, c'est une écriture complètement différente. Hein, tu faisais l'inventaire tout à l'heure des modes opératoires de la piste mongole. Là, c'en est encore d'autres.
Encore que ces incursions qu'il fait dans son enfance, un peu comme un rêve, lui permettent à lui aussi de... pas de deviner son avenir, puisque dans son avenir, il y est, mais de comprendre comment il a évolué, enfin de comprendre sa vie, de comprendre pourquoi il
en
est
là.
C'est
vrai. En plus, ces incursions dans son passé, 50 ans en amont, sont décrites avec une précision.
Oui.
Il n'y a rien de fantasmagorique. C'est aussi concret, aussi réel que le présent immédiat.
Mmh.
Voilà.
peut parler d'un autre qu'il a écrit plus tôt, je crois, qui s'appelle « Des femmes disparaissent » et dans lequel, qui s'intitule « Une enquête de Zhuo Liu », dont on parlait tout à l'heure, Zorro, voilà. Et donc, pareil, beaucoup de récits. Et on retrouve notre cher Chen Wanglin, qui lui aussi, ici, par le biais d'oncles, de tantes, enfin, etc. Il y a vraiment tous ces personnages qui se recoupent constamment. Et le dernier, que nous avions lu aussi ensemble, qui était Selon Vincent. Tu peux en parler, Jean, peut-être, toi, tu l'as lu aussi.
Mais justement, je vais parler surtout d'un procédé d'écriture assez étonnant aussi. Très souvent, les pages sont divisées en deux parties. Sur la partie supérieure, donc on raconte l'histoire qui correspond au titre. Et puis, dans la partie inférieure, il est question d'un soldat de l'époque de Napoléon qui participe à la retraite de Russie dans des conditions terribles. Et les deux récits, les deux histoires se répondent. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, comme une polyphonie, on pourrait dire. Et pour en revenir alors à notre piste, pour reprendre la piste mongole, je pense que le terme polyphonie peut correspondre aussi à ce livre. On entend des voix, on entend des musiques, on entend des paroles qui viennent d'un peu partout, comme on a parlé aussi, quand on s'est réunis, d'une sorte d'arbre avec des embranchements successifs, mais avec quand même un tronc qui permet de revenir à un centre. Il me semble qu'on n'est jamais dans le livre complètement perdu. Et que même, il me semble qu'à la fin, il y a une sorte de clé qui est donnée et qui tendrait à, enfin c'est l'idée que j'ai eue, à dire que finalement, on a l'impression qu'il y a une très grande variété de narrateurs et peut-être que finalement, il n'y en a qu'un. Et ce serait donc le personnage que Rosario recherche. Le personnage qui s'intitule Eugenio. Je lis le passage qui m'incite à dire ça. Cher Wanglin, je suis aussi toi, vois-tu. Je connais même ton nom et je sais qui tu es, puisque je suis qui tu voudras. Or, ce que tu voudras, c'est ce que je voudrais. Car tu croyais écrire mon histoire quand c'est moi qui écrivais la tienne et celle de tous les autres, y compris la mienne. Je suis tout cela que j'ai nommé et d'autres encore. Et il énumère donc les noms des personnages qu'on a rencontrés tout au long du récit.
Et finalement, je me disais que ce chant diphonique mongol est assez, une métaphore assez intéressante pour l'écriture de Christian Garcin. Il y a le bourdon de fond. C'est lui. Et puis sur ce bourdon, là, il y a toutes les voix provoquées
toutes par les histoires
toutes les histoires dessus. Qui s'enchaînent. Enfin, voilà.
Oui. Il y a comme un bruit central et puis des espèces d'ondes qui.
Et des
foisonnements.
Voilà. Un foisonnement.
Des histoires multiples.
Donc il faut se laisser. Alors quelqu'un, au moment où on a parlé du livre, donc quelqu'un a dit finalement, moi, ça m'était complètement égal d'être égaré. Au contraire, finalement, il y a quelquefois un plaisir à être dans une forêt et de se sentir un peu perdu.
Alors on a envie, pour terminer l'émission, de vous perdre dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine, dont nous vous faisons écouter quelques extraits, et nous vous disons après les vacances.
Si je peux quand même ajouter une précision, le cercle de lecture se réunira de nouveau en septembre, je ne sais plus à quelle date exactement, autour du 15 septembre, je crois.
Ça
et
sera
le livre
sur
qui
Internet.
A été choisi est un livre de Philippe Ross qui s'intitule « Le complot contre l'Amérique ».